l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Quand on lit des livres sur la vie et l'enseignement de Saint Père du désert d'Égypte au IVe siècle ou de celui du mont Athos au XIVe siècle, on peut avoir souvent l'impression qu'il s'agit des histoires de jadis, propres à un monde à jamais disparu. D'autant plus on est saisi d'étonnement quand on découvre que, à notre époque, appelée à tort post-chrétienne, existent toujours des grands spirituels qui vivent une vie de sainteté comme les grands saints de jadis. Certains d'entre nous ont eu le bonheur de rencontrer personnellement ces pères spirituels. Je rends grâce à Dieu, car j'ai eu part de telles rencontres en Roumanie et à la Sainte Montagne. Mais nous pouvons tous contempler ces icônes vivantes de la spiritualité chrétienne contemporaine en lisant les livres écrits par leurs disciples qui sont parus pour la première fois en français dans la collection Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle. Au début du véritable pèlerinage dans la haute spiritualité chrétienne orthodoxe, qui nous est proposé par cette collection, nous rencontrons Saint Silouane, moine russe au mont Athos. La collection est née ainsi par la publication de ce livre aux éditions du CERF en 2001, première année du XXIe siècle, qui est également l'année de naissance de notre émission « L'Église orthodoxe aujourd'hui ». Ensuite, chaque année, au moins un nouveau titre est paru dans cette collection, l'ancien Joseph Lesicaste, l'ancien Ephrem de Katunakia, tous les deux moines grecs au mont Athos, le père Cléopas de Roumanie, prière sur le lac du saint serve Nicolas Velimirovitch, et le livre paru récemment sur le Staret Serge, moine russe de France. D'origines diverses, vivant dans de différents pays, tous ces pères de l'Église contemporaine nous ont laissé le témoignage de la même spiritualité chrétienne orthodoxe et de la même sagesse inspirée par Dieu, qu'ils ont exprimé chacun selon sa propre personnalité. Pour nous présenter brièvement leur vie et leur enseignement, nous avons invité dans notre émission M. Jean-Claude Larcher, patrologue et théologien orthodoxe français, qui a initié et qui dirige la collection Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle. Il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la spiritualité des pères orientaux, dont Thérapeutique des maladies spirituelles et La divinisation de l'homme selon saint Maxime le Confesseur. Nous lui avons demandé d'abord comment est née l'initiative de créer cette collection.
Lors de mes voyages dans les pays orthodoxes, j'ai entendu parler de, ou même parfois rencontré, de grands spirituels, et je me suis aperçu que dans ces pays orthodoxes, au cours des années, un certain nombre de volumes de témoignages avaient été publiés sur eux, alors qu'en France, ils étaient peu connus. Et mon idée a été de faire connaître aux lecteurs français, francophones plus largement, ces grands représentants de la spiritualité orthodoxe. Et notamment, j'avais entendu parler de livres qui avaient un très très grand succès, soit en Grèce, soit en Roumanie, soit en Serbie, qui avaient déjà été traduits dans de nombreuses langues, et qui étaient bien connus dans tous les pays orthodoxes, mais aussi en Angleterre et aux États-Unis, alors qu'ils étaient presque inconnus en France. Et donc mon idée a été de faire connaître à la fois ces ouvrages et évidemment avant tout les pères dont ils parlaient.
Quels étaient les principes selon lesquels vous vous êtes guidé pour choisir les titres qui ont déjà paru dans cette collection?
Alors c'est vrai qu'il y a certains titres qui se sont imposés d'eux-mêmes, parce que ce sont des titres qui sont bien connus dans leur pays d'origine. Je pense en particulier du livre sur le père Joseph Lesicaste, qui a été écrit par son disciple, qui s'appelle également d'ailleurs Joseph et qui est maintenant très âgé, mais qui est toujours père spirituel du monastère de Vatopédie. Et ce livre, déjà il y a 40 ans, était extrêmement connu en Grèce. Il a commencé par une petite diffusion renéotypée, comme l'a d'ailleurs été le livre du père Sophronie sur le Staret Silouane. Et très très vite, il y a eu une véritable édition imprimée, puis une réédition, et ensuite une diffusion très large, et c'est devenu un livre presque mythique. Ce livre, j'ai voulu évidemment le publier parce que c'était un livre qui s'imposait de lui-même, qui avait été écrit par un disciple du Père Joseph, qui avait vécu de nombreuses années à ses côtés. Un autre titre qui s'est imposé de lui-même, c'est le livre du Père Yoannick Yebalan sur le Père Cléopas, puisque le Père Yoannick Yebalan était l'un des plus proches disciples du Père Cléopas, qui a vécu à ses côtés pendant de nombreuses années. Et c'est aussi un des seuls livres dont nous disposons pour le moment sur lui. Et puis, il y a aussi des livres qu'il a fallu choisir entre plusieurs, parce que parfois, il y a 10 ou 15 livres même sur le même père, notamment c'est le cas pour le Père Porphyrios sur lequel nous sommes en train de préparer un volume. Et donc souvent je consulte des gens qui ont connu le père spirituel en question, qui connaissent les livres qui ont été écrits sur lui et qui peuvent me guider dans le choix du meilleur titre. À chaque fois qu'il y a plusieurs titres, j'essaye, avec l'aide de différents consultants, de trouver vraiment le titre le plus adapté à la fois à l'esprit de la collection et aussi le plus fidèle à ce qu'a été le père en question dans sa personnalité, dans sa vie, dans son enseignement. En général, je privilégie des livres qui ont été écrits par des disciples du père en question qui l'ont fréquenté, qui l'ont connu.
Quand on regarde les livres qui sont parus dans la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle, on comprend qu'il y a une structure que l'on peut retrouver dans chaque de ces livres.
En général, les livres se divisent en trois parties. La première partie est une biographie qui se veut souvent d'ailleurs une biographie spirituelle, pas seulement une biographie historique et factuelle. La deuxième partie est une présentation générale de l'enseignement du père en question. Et la troisième partie est constituée d'extraits de son œuvre ou parfois d'une œuvre complète. Alors ça peut consister en des apostèmes, ça peut consister en des lettres, en un petit traité. La forme a déjà été et sera variée. Par exemple, pour le premier livre qui est apparu dans la collection, le livre sur Saint-Silouane dont j'ai été l'auteur, j'ai publié en troisième partie des lettres inédites qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. Pour l'ancien Joseph Lézikas, nous avons publié une de ses plus belles lettres à titre d'exemple et en quelque sorte aussi de précurseur, puisque nous allons dans quelques mois faire paraître l'intégralité de ses lettres spirituelles. Pour le père Cléopas, nous avons donné plutôt des apophthegmes, des petits conseils pour la vie spirituelle. Pour Monseigneur Nicolas Velimirovitch, maintenant Saint-Nicolas de Jitcha, nous avons publié une œuvre complète, les prières sur le lac. Et pour le dernier volume de la collection, sur le Staret Serge, j'ai publié 300 apophthegmes, conseils très pratiques pour la vie spirituelle, qui sont des paroles qu'il a dites à ses disciples à l'occasion de confessions ou d'entretiens spirituels.
Il faut aussi préciser que les livres de votre collection sont parus d'abord aux éditions du CERF et ensuite, pour le dernier titre, aux éditions L'Âge d'Homme.
Oui, c'est une collection qui a été inaugurée aux éditions du CERF avec mon livre sur Saint-Silouane de Latos, qui s'est poursuivi par le livre du Père Joseph de Vatopédie sur l'ancien Joseph Lézikas. Ensuite, trois volumes ont paru aux éditions L'Âge d'Homme, l'ancien Ephrem de Katounakia par son disciple Père Joseph de Katounakia, le Père Cléopas par son disciple Yoannick Yebalan, et le livre de Monseigneur Nicolas Velimirovitch, Les prières sur le lac. Et le dernier titre de la collection vient de paraître aux éditions du CERF de nouveau, puisque c'est un livre que j'ai écrit et que je suis un auteur du CERF. Donc ça explique qu'on soit retourné pour ce titre aux éditions du CERF, mais les titres suivants vont tous paraître aux éditions L'Âge d'Homme.
Quel est le dernier titre qui est paru dans votre collection?
Alors, le dernier titre qui est paru il y a quelques mois, c'est Le Staret Serge, dont je suis l'auteur, puisque Le Staret Serge est quelqu'un que j'ai connu et fréquenté pendant plus de 17 ans, qui était une très grande figure, non seulement de l'immigration russe en France, mais une très grande figure de l'orthodoxie en Occident et bien au-delà, puisque Il est connu dans un certain nombre de pays orthodoxes. Beaucoup de gens venaient le consulter de différents pays orthodoxes.
Collection graphique orthodoxe du XXe siècle. Pourquoi vous avez choisi de commencer cette collection par un livre sur Saint Silouan, le saint orthodoxe qui est le plus renommé en Occident?
À vrai dire, ce livre a commencé par des articles qui m'ont été commandés pour la revue de l'association Saint Silouan Buisson Ardent. J'ai fourni des articles pour les trois premiers numéros. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait des thèmes qui n'avaient pas été abordés par les congrès que tient régulièrement cette association et qu'il serait souhaitable d'aborder. J'ai donc eu l'idée d'ajouter à ces trois thèmes que j'avais traités, qui figuraient parmi les plus connus, l'amour des ennemis, tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas, et salut personnel et salut du monde, d'autres thèmes qui étaient très importants chez le Staretz Silouan, comme par exemple l'humilité, comme l'acquisition du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que il y avait très rapidement la matière pour un nouveau livre. Et ce livre, en fait, est apparu comme une sorte de complément du livre de Persophonie, parce que, et ça ce sont les moines de Maldon qui me l'ont dit, Persophonie avait toujours voulu écrire un livre sur Saint Silouan où il montrerait à la fois sa continuité par rapport à l'enseignement patristique traditionnel et son originalité. Et il n'avait pas eu l'occasion d'écrire ce livre, et c'est un peu l'esprit dans lequel je l'ai écrit, c'est-à-dire à chaque fois, pour les différents thèmes étudiés, je montre comment Saint Silouan s'inscrit profondément dans toute la tradition patristique, mais en même temps comment il a une vue originale, personnelle et néanmoins parfaitement conforme à cette tradition.
Donc on peut dire qu'il s'agit là d'une étude patristique que vous avez faite sur l'œuvre de Saint Silouan.
D'une certaine façon, c'est vrai, c'est-à-dire que je montre aussi que Saint Silouan s'inscrit tout à fait dans la continuité des pères de l'Église, qu'il est lui-même un père de l'Église. Vous savez que pour nous orthodoxes, les pères de l'Église ne s'arrêtent pas avec Saint Jean Damascène, comme c'est le cas souvent dans l'enseignement académique du christianisme occidental, mais que nous considérons que les saints d'aujourd'hui, qui témoignent de la vérité du Christ à travers leur vie et leur enseignement, sont eux aussi des pères au même titre que les pères des anciens temps.
Après ce livre sur Saint Silouan, que vous avez écrit vous-même, quel était le prochain titre à paraître?
Eh bien, le titre suivant est paru aussi aux éditions du Cerf. C'était le livre très célèbre en Grèce et d'ailleurs maintenant aussi aux États-Unis, du père Joseph de Vatopédi sur l'ancien Joseph Lésicaste. Alors, l'ancien Joseph Lysicaste est vraiment, on peut dire, l'équivalent grec du Staret Siloane. Il est tout à fait aussi connu que lui. C'est un spirituel d'une dimension vraiment exceptionnelle. C'était un ermite qui a vécu toujours avec une très petite communauté, quelques disciples, menant une vie ascétique très proche de celle des anciens Hésicastes, et c'est pourquoi d'ailleurs on l'a appelé lui aussi l'Hésicaste, mais qui a eu au Moïtos et ensuite en dehors du Moïtos un rayonnement absolument considérable. Actuellement, il y a un grand nombre de monastères du Moïtos dont les Igoumènes sont ses enfants ou ses petits-enfants spirituels et qui développent dans leur monastère son enseignement, qui vivent sur la base de son témoignage, de son expérience, de son enseignement. Et ce rayonnement s'est manifesté aussi dans toute la Grèce et également particulièrement aux États-Unis, où l'un des proches disciples de l'ancien Joseph, le père Ephrem, autrefois igoumène de Philothéou, est allé et a fondé maintenant, je crois, 17 monastères, dont le principal se trouve en Arizona, qui est le monastère Saint-Antoine, où il réside lui-même. Et aux États-Unis, il est extrêmement connu. Il a contribué aussi beaucoup à faire connaître l'ancien Joseph, qui vraiment est maintenant en Grèce quelqu'un d'extrêmement vénéré, qui d'ailleurs vient d'être inscrit par le patriarcat de Constantinople dans la liste de 3 grands spirituels du siècle dernier qui vont être prochainement canonisés. Et l'ancien Joseph Lysicaste est quelqu'un qui suscite un intérêt dans tous les milieux. C'était un homme très simple, très modeste, mais qui vraiment a aujourd'hui encore un impact, une influence sur des milieux intellectuels et sur des milieux très simples. Il y a eu, il y a 2 mois, à Athènes, un grand colloque auquel j'ai participé et qui a duré 3 jours et auquel assistaient en permanence plus de 1500 personnes. Vous imaginez, en général, les colloques en France, ça regroupe vraiment quelques dizaines de spécialistes. Là, il y avait 1500 personnes qui assistaient. Il y avait des ministres qui étaient là pour représenter l'État, la télévision d'État a filmé le colloque en permanence et en diffusé régulièrement des extraits. C'était vraiment un très grand événement et ça montre comment un moine, si vous voulez, qui a vécu vraiment dans l'isolement, qui cherchait à être inconnu de tous, a réussi par la qualité de sa vie spirituelle, de son témoignage, à finalement avoir un impact sur la vie spirituelle de millions de gens.
Pendant mes voyages au Moïtos, j'ai eu la joie et la chance de rencontrer des hésicastes, des ermites roumains qui suivent dans leur vie, dans leur programme de chaque jour, la règle issue de l'expérience de l'ancien Joseph Lysicaste. Et voilà que son enseignement a porté des fruits pour des hésicastes au Moïtos, comme pour des gens aux États-Unis, tout comme on voit que l'enseignement et la vie de Saint Siloane a porté des fruits, pas seulement au Moïtos, mais aussi en Angleterre, où se trouve le monastère fondé par son disciple, le Staretz Sophronie.
Tout à fait, et c'est extraordinaire de voir comment des gens qui vivent finalement une vie séparée du monde, qui vivent aussi pratiquement la vie des anciens pères du désert, sont appréciés comme des gens qui peuvent, dans notre monde moderne, et pour des gens qui vivent la vie du monde moderne, apporter quelque chose de fondamental, avoir quelque chose d'enrichissant et même, je dirais, de nécessaire. Comme vous dites, beaucoup de laïcs s'inspirent dans leur vie quotidienne, tout en vivant dans le monde, d'un certain nombre de pratiques qui ont été enseignées et aussi manifestées par leur propre vie, par ces grands saints.
Je vous prie de donner encore des exemples de tels pères spirituels qui ont vécu au XXe siècle et dont leur vie et leur enseignement a été présenté dans votre collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle.
Oui, alors après le livre sur le père Joseph Lysicaste, nous avons publié un livre sur l'un de ses plus célèbres disciples qui est l'ancien Ephrem de Katunakia. Katunakia, c'est la partie du mont Athos où vivent les ermites. Il y a en fait 2 régions qui sont contiguës, Katunakia et Karouia. Karouia, c'est l'endroit où ils vivent dans des grottes qui surplombent la mer d'une manière parfois très difficile parce que ces grottes sont difficiles d'accès. Ils ont donc peu de contact même avec les visiteurs du mont Athos. Katunaka est une région proche où il y a des ermitages, des sites, qui est un peu plus accessible, mais qui est aussi une région que l'on appelle là-bas le désert. Et Père Joseph a passé toute sa vie là-bas. C'est un grand spirituel qui est né en 1912, mort en 1998. Il avait un contact étroit avec la communauté du père Joseph Lézikas, puisqu'il a été longtemps le prêtre de la communauté. Donc, c'est un disciple de Joseph qui a appliqué dans sa vie son enseignement, et puis qui ensuite, à la mort de Joseph, s'est séparé de la communauté et a vécu en ermite, dans cette région qui se trouve au sud du mont Athos, et au sud-est, à l'extrême pointe même, et qui a très longtemps vécu dans une totale solitude. Et c'est seulement dans les dernières années de sa vie qu'il a accepté d'abord un disciple, puis deux, et puis qu'il a accepté qu'une petite communauté se forme autour de lui, et donc profite de toute la richesse qu'il avait lui-même reçue de l'ancien Joseph. Et alors c'est une figure aussi très très impressionnante de la spiritualité orthodoxe. C'était un homme que moi-même j'ai rencontré, que j'ai connu, qui était un homme d'une extraordinaire humilité, qui était vraiment frappante. On voyait, quand on le rencontrait, un homme dont l'humilité était éclatante, dont aussi l'esprit de pénitence était visible. Il pleurait en permanence, des larmes lui coulaient sur les joues de manière continuelle. C'était un homme qui était dioratique, qui avait une vision à la fois de la réalité dans ses profondeurs, au-delà de la matière, au-delà de l'espace et du temps. Il voyait les anges et les démons comme on voit des êtres humains. Et c'est quelqu'un qui était surtout réputé pour être l'un des plus grands hésychastes du mont Athos. Il avait vraiment assimilé parfaitement la tradition hésychaste, il avait acquis la prière du cœur, il priait vraiment en permanence dans le cœur, et beaucoup d'ascètes allaient le consulter pour ça. Il a même été le père spirituel de plusieurs igoumènes connus du mont Athos, dont le père Emilianos de Simonos Petra.
Troisième titre qui est paru dans votre collection.
C'est le livre consacré au père Cléopas, le grand spirituel roumain. C'est certainement la figure majeure de la spiritualité roumaine au XXe siècle. Il a joué un rôle considérable à la fois comme restaurateur du monachisme en Roumanie. Il a beaucoup revivifié la vie dans les monastères roumains. Et surtout, il avait vraiment, c'était un homme qui avait de grands charismes, qui attirait autour de lui, à partir d'un certain moment du moins, c'est-à-dire au moment où il a recommencé à mener une vie publique et à ouvrir les portes du monastère où il résidait aux gens qui venaient le voir. Il a vraiment reçu des milliers, des dizaines de millions, on peut même dire des centaines de milliers de gens venus de toute la Roumanie et de toute l'Europe. C'est donc quelqu'un qui est assez connu, même, je dirais, en France. Je me rappelle qu'à une certaine époque, la procure, qui avait une agence de voyage, et qui a d'ailleurs, je crois encore, cette agence de voyage, incluait même dans son circuit de la visite des monastères roumains une visite au père Cléopas, et le groupe de touristes assistait à ce qu'on peut appeler les apparitions publiques du père Cléopas dans la grande salle qu'on avait dû d'ailleurs construire au monastère de Sicastria pour accueillir toutes ces foules de visiteurs. Et le père Cléopas, justement, est quelqu'un d'assez exceptionnel parce que il a combiné la vie monastique cénobitique et la vie monastique érémitique. Il a d'abord commencé, peut-on dire, sa vie monastique en étant ermite, puisqu'il était chargé de garder les troupeaux de moutons du monastère. Donc pendant près de 11 ans, il a exercé la diaconie, comme on dit, c'est-à-dire le service de berger. Donc il allait s'isoler tout seul dans les pâturages avec ses moutons, et là il priait beaucoup, il lisait beaucoup les pères de l'Église, et comme il avait une mémoire formidable, eh bien, il retenait presque tout ce qu'il lisait, et ça a constitué ensuite sa bibliothèque intérieure pour toute sa vie future.
Et puis on a fait appel à lui pour devenir l'igoumène de son monastère. Il a revivifié ce monastère et puis il a eu une action tellement extraordinaire dans ce monastère qu'on l'a appelé aussi pour faire la même chose dans les monastères voisins. Et je crois que c'est près d'une vingtaine de monastères comme ça qu'il a remis en état, où des moines de nouveau ont afflué malgré la difficulté de l'époque, parce que c'était, c'était pas encore l'époque du communisme, mais il y avait une forte emprise de la laïcité. Et puis est venue ensuite la période du communisme, et là le père Cléopas, qui était très connu, faisait un peu de l'ombre aux autorités du régime, et donc on voulait pas de ce moine qui attirait les gens autour de lui, qui avait une influence si considérable, et donc on a cherché à l'arrêter, à le mettre en prison, et là il s'est enfui dans la montagne. Et par trois fois, il a dû mener une vie d'ermite, mais en étant vraiment caché de tout le monde, c'est-à-dire il y avait un disciple avec lui, et personne d'autre ne savait où il se trouvait, et là il a mené vraiment, pendant je crois 8 ans au total, la vie des pères du désert du IVe siècle. Ils se nourrissaient de presque rien, ils mangeaient des plantes qu'ils trouvaient dans la forêt, des racines, des fèves, ils faisaient la liturgie sur un tronc d'arbre, et ils passaient 15 heures par jour à prier et à faire la prière de Jésus, et faisaient en plus des offices. Et donc là, quand il est revenu de cette période d'érémitisme, qu'il a pu réintégrer son monastère, tout le monde a vu un homme transfiguré, lumineux, qui a immédiatement attiré autour de lui non seulement les moines qui venaient lui demander des conseils de tous les monastères, mais des gens qui venaient de toute la Roumanie, puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute l'Europe. Et c'est là donc qu'il a commencé à faire des prédications où il recevait des gens à la fois individuellement et collectivement, et où il a commencé à donner un enseignement qu'ensuite l'évêque de Transylvanie lui a demandé de mettre par écrit, si bien que cet homme simple qui n'avait pas fait d'études nous a tout de même laissé 12 volumes d'œuvres.
J'ai eu la chance de le connaître personnellement, le père Cléopas, depuis de longues années. J'étais encore enfant quand je suis allé pour la première fois au monastère de Silestria. Je l'ai vu plusieurs fois ensuite, jusqu'un peu avant de l'année quand il a rendu son âme au Seigneur. Et c'était vraiment extraordinaire le fait que d'abord les communistes n'ont pas pu jamais le faire taire. Donc il a toujours parlé aux gens, il avait toujours des foules qui venaient chez lui pour l'écouter. Et il avait ce style de parler qui intéressait tout le monde, donc du plus simple paysan jusqu'au grand théologien qui venait chez lui pour l'écouter. Tous avaient quelque chose à apprendre de lui. Je pense que c'est un charisme propre aux grands spirituels qui sont vraiment inspirés par le Saint-Esprit.
Oui, il était, comme on dit, théodidacte, c'est-à-dire enseigné par Dieu. Hein, et justement, il avait appris toute cette sagesse spirituelle qu'il donnait ensuite à tous ceux qui venaient le voir à travers la prière, à travers la pratique des commandements, à travers la pratique des vertus. Et il était tellement savant que parfois certains visiteurs lui disaient « Mais père Cléopas, dans quelle université avez-vous fait des études ?» Et il répondait « Oh, mais moi, vous savez, j'ai fait beaucoup d'universités. » Et il donnait les noms de ces universités, et c'était en fait le nom des pâturages où il avait gardé ses moutons.
Chers auditeurs, le lancement en France du livre Le Père Cléopas, qui est paru en 2004 aux éditions L'Âge d'Homme dans la collection Grands Spirituels Orthodoxes du XXe siècle, a eu lieu samedi, le 29 janvier, dans la paroisse roumaine Sainte Parasève et Sainte Geneviève, abritée par la crypte de l'église Saint-Sulpice à Paris. À cet événement, présidé par Mgr Joseph Pop, métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, ont participé Mgr Daniel Ciobota, métropolite de Moldavie et de Bucovine en Roumanie, M. Jean-Claude Larcher, et le traducteur, le père archimandrite français Marc Alric, devenu moine au monastère Sihăstria du père Cleopa, qui ont présenté la personnalité du grand spirituel roumain devant les nombreux chrétiens orthodoxes de diverses origines présents. Nous allons continuer à présenter les autres titres de la collection Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle dans notre prochaine émission. Chers auditeurs, nous vous invitons à écouter nos émissions précédentes sur le site internet de l'émission à l'adresse suivante ortradio.free.fr, je répète, ortradio.free.fr, et de nous écrire vos impressions à l'adresse de Radio Notre-Dame ou à l'adresse électronique ortradio@free.fr. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra au Mont Athos et Saint-Anton le Grand dans le Vercors et la chorale de la paroisse orthodoxe roumaine Sainte-Parasève et Sainte-Geneviève à Paris. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM.